soir week-end, Pierre de Villeneuve.
Bienvenue à tous en ce dimanche soir, c'est parti pour 2 heures d'infos, de décryptage et de débat. Il est 18h. Au sommaire, que nous réserve le Covid-19? Des chiffres en hausse, aussi bien le taux d'incidence que le taux d'hospitalisation. Le professeur Fischer, le monsieur vaccination du gouvernement, appelle les 8,5 millions d'éligibles au rappel à venir le faire sans tarder. Détail de cette 7e vague qui se profile dès le début de ce journal avec le professeur Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches. L'autre grand titre de l'actualité, c'est un remaniement en vue déjà, mais avec le maintien d'Elisabeth Borne, le président Macron en ce moment au G7 en Allemagne, campe sur l'idée d'un pluralisme dans son gouvernement, quitte à mettre de côté le rôle du Parlement. Explication à suivre. L'appel ce matin des patrons des géants de l'énergie, ils somment les Français à plus d'économies, moins d'électricité, moins de pétrole, moins de gaz. Sinon, on ne s'en sortira pas, disent les PDG d'Engie, d'EDF et de Total. Oui, mais est-ce faisable? Et si oui, comment? Nous verrons cela. Dans ce journal également, la crainte en vue de l'été dans les festivals. D'où proviennent ces fameuses piqûres? Et comment prévenir ce phénomène qui perdure et s'accélère? Reportage au Hellfest en Bretagne. Et puis son nom est Marchand, Léon Marchand. Il fait 1m83, il vient d'avoir 20 ans. Ce jeune Toulousain vient d'être promu meilleur nageur du monde. À 18h15, l'invité politique, c'est Philippe Ballard. Après avoir fidèlement joué le rôle de porte-parole de Marine Le Pen, il fait partie des 89 députés RN qui ont pour ambition de prendre une vraie place dans le dispositif législatif. 18h30, ça fait débat. Le sondeur de l'IFOP, Frédéric Dabi, contre la conseillère en com, Marie-Virginie Klein. 19h le journal, 19h15, André Comte-Sponville dans l'interview découverte. Le philosophe publie à nouveau « La sagesse des modernes ». Comment vivre, matérialisme et humanisme, quête d'essence, démocratie, devoir, bioéthique, art et beauté. Le programme est vaste. 19h30, panorama. En 2035, les constructeurs automobiles ne pourront plus produire ni vendre de voitures thermiques. Mais n'est-ce pas là un ultimatum avant un autre? L'étape d'après n'est-elle pas l'interdiction pure et simple de produire toute voiture, quelle qu'elle soit? Certains le souhaitent. Débat à venir avec les représentants des cyclistes, des voitures électriques, de la filière auto et le pilote automobile Paul Belmondo. Covid un jour, Covid toujours. Nous avons assez vite compris que nous devions apprendre à vivre avec le virus, que les rappels de vaccins se feraient régulièrement, peut-être même tous les ans. Et voilà, alors que les souvenirs du confinement et même du masque semblent très lointains, la 7e vague menace, elle est même déjà là, disent certains spécialistes. Ce matin, dans le journal du dimanche, le professeur Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, appelle de nouveau les plus de 60 ans, les plus fragiles, à se faire administrer une 4e dose. À ce jour, 8,5 millions de Français n'ont pas reçu le rappel. Et rappelons aussi que le gouvernement réfléchit à l'idée d'un pass sanitaire aux frontières jusqu'en mars 2023. Pour y voir plus clair, invité de ce journal, l'infectiologue Benjamin Davido de l'hôpital Raymond Poincaré à Garges. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Nous, médias, avions perdu l'habitude de vous interroger, vous et vos collègues. Est-ce que les semaines et les mois qui viennent s'annoncent comme des jours où on va beaucoup vous entendre et beaucoup vous voir à la télé et à la radio?
Écoutez, en tout cas, nous, je ne pense pas qu'on espère être entendu sur l'image médiatique. On espère être entendu dans la bonne parole et je veux dire le jeu collectif pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de reprise épidémique à l'hôpital. Je vous entendais parler de 7e vague. Par définition, c'est un début de vague qui se forme puisqu'il y a une reprise des contaminations. L'enjeu va être d'éviter qu'il y ait une vague hospitalière. On ne sait pas de quelle teneur sera cette vague et comme vous le savez, il y a toujours ce décalage entre 14 et 21 jours. Il faut être prudent parce que malheureusement, la réalité, c'est qu'on commence à voir des gens, comme vous l'avez illustré très bien, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 65 ans, qui ont des maladies générales et qui n'ont pas eu leur 4e dose ou un rappel qui était nécessaire suite à une infection. Et clairement, c'est ça qui nous embête. On se rappelle le mauvais souvenir, non pas du confinement, mais tout simplement de la vague Delta l'été dernier qui avait frappé très fort, très dur en plein mois de juillet-août. Et on ne voudrait pas vivre le même scénario dans une situation où l'hôpital est déjà fatigué, lassé et sous tension.
Alors là, ce n'est pas le Delta, c'est le BA4, BA5 qui est quand même moins virulent, je parle sous votre contrôle, que le Delta.
Alors, ce qui nous alerte d'abord, c'est que on voit que ces formes dues à BA5 sont beaucoup plus symptomatiques. On voit moins de formes asymptomatiques et le BA4, BA5 et surtout BA5 a une des mutations qui est commune avec le variant Delta. Il faut rester prudent puisque on sait que les vagues se ressemblent, se suivent mais ne se ressemblent pas. Et on sait malheureusement, les chiffres parlent d'eux-mêmes, qu'il y a toujours environ une cinquantaine de morts de trop quotidiennement. Et le risque avec cette maladie qui arithmétiquement touche beaucoup d'individus, c'est de se retrouver avec un lourd fardeau à la fin de ces différentes vagues. Et on craint évidemment que si on ne réussit pas une campagne de vaccination dans le beau tempo, on arrive à l'automne dans des conditions très difficiles.
Alors vous dites être prudent, vous appelez à la vaccination, tous ceux qui doivent recevoir une dose de rappel devraient y aller. Mais quand vous voyez par exemple la une du journal Le Parisien hier matin, qui titre « Après 2 ans de Covid, le retour des mariages ». Est-ce que vous tombez de votre chaise en disant « Non, 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 n'allez pas si vite » Où est-ce qu'on en est de la prudence, Benjamin Davidot ?
Alors d'abord, j'ai envie de dire, moi je suis tombé de ma chaise le jour où on a dit qu'on allait enlever les masques dans les transports en commun, qui sont un lieu où le traçage est impossible et où la promiscuité est certaine. J'avais d'ailleurs appelé de mes voeux que malheureusement, si une vague se profile à l'été, il faudrait en tirer les conclusions et surtout que ça allait être extrêmement difficile de remettre les masques dans ces conditions. Je crois qu'il faut distinguer les endroits qui sont à haut risque de se contaminer, qui sont des endroits clos, mal aérés, mal ventilés et pour lesquels le traçage est difficile. On imagine volontiers cet été un mariage avec entre 50 et 100 personnes en extérieur, que le risque est moindre, même si vous avez raison de le rappeler, la première année du Covid en 2020, on sait que ça a été un des starters parmi d'autres. Mais je crois qu'il faut d'abord commencer par là où le risque est le maximum. Et encore une fois, je pense que la première étape, si on veut agir tout de suite, au-delà de la vaccination, c'est le port du masque dans les endroits à forte circulation.
Donc les avions, les trains, les bus, les transports en commun, il y a des cas qui commencent à revenir dans les classes aussi chez les enfants.
Alors la bonne nouvelle pour les enfants, c'est que ça n'échappera à personne. Les vacances scolaires arrivant, les classes, ça ne va plus être un problème. Mais on voit bien que, clairement, vous l'avez dit d'ailleurs au début de votre intervention, on veut vivre avec ce virus comme on vit avec d'autres maladies comme la grippe. Sauf que la grippe ne fera pas chaque saison et encore moins à l'été. Ça veut dire qu'il faut s'adapter, ça veut dire qu'il faut faire preuve d'ingéniosité, qu'il faut avoir de l'ambition, il faut innover. Et ça, c'est quelque chose dont il faut tirer parti et profit pendant la période de l'été, ce qui n'est pas toujours évident parce que les gens ont envie de penser à autre chose, ce qui est parfaitement légitime.
Dernière question, Benjamin Davidot, comment va l'hôpital, vous qui y êtes tous les jours ?
Bah écoutez, l'hôpital, c'est un secret pour personne, il va mal, mais il va mal depuis bien avant le Covid. On va dire que les choses ne s'améliorent pas. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse repartir sur des bonnes bases, dans des bonnes conditions et reformer l'hôpital en profondeur. Mais ça n'empêche pas que le Covid se porte mieux. C'est deux choses qui sont différentes et on espère bien évidemment le meilleur. Je parle au nom de tous.
Donc
les soignants
pas de chaos à l'hôpital à cause du Covid cet été en prévision.
En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas éléments pour penser qu'il y a absolument un chaos. En revanche, si on ne prend pas les mesures de façon pérenne, très clairement, si ce n'est pas le 1er août, ça sera à l'automne. Et je crois qu'encore une fois, l'ambition, c'est de s'inscrire dans la durée si on veut vivre avec.
Merci, professeur Davidot. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. 18h07, Emmanuel Macron est au château d'Elmau, au pied des montagnes du Wetterstein en Allemagne. C'est là qu'il participe aux réunions du G7 en compagnie de Joe Biden, de Olaf Scholz, de Boris Johnson, des autres dirigeants étrangers. Le nucléaire iranien, mais aussi l'Ukraine, bien sûr, et son entrée dans l'Union, de nouvelles sanctions et un appel à l'unité, voilà ce qu'il en ressort. Arthur Delaborde, vous êtes sur place pour suivre la visite du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui par ailleurs a renouvelé sa confiance à Elisabeth Borne à Matignon, tout en lui demandant de renouveler son gouvernement.
Effectivement, après avoir renouvelé sa confiance en sa première ministre, Emmanuel Macron explique vouloir regarder clairement la situation en face. La légitimité du président ne dépend pas de la majorité au Parlement, explique-t-il. Cette spécificité de la constitution de la Ve République à ses yeux est d'ailleurs une force pour le pays sur le plan international en termes de crédibilité. Emmanuel Macron se dit donc surtout préoccupé par les fractures de la société française qui sont d'après lui liées aux différentes crises récentes à laquelle nous devons faire face. Covid, guerre en Ukraine, phénomène migratoire et bouleversements technologiques et climatiques. Selon le chef de l'État, ces crises impactent en premier lieu les classes moyennes et populaires, ce qui peut expliquer en partie les résultats des législatives. Il le martèle, sa majorité relative au Parlement ne peut paralyser le pays et implique de faire des compromis. De ce point de vue, il souligne l'apport de son futur Conseil national de la refondation qui s'appuiera notamment sur les élus locaux et les forces sociales. Mais concrètement, il insiste surtout sur la nécessité de mettre en place un gouvernement de coalition. Emmanuel Macron pense de ce point de vue qu'il peut gouverner avec des personnes personnalités issues d'un arc républicain allant des communistes jusqu'au LR, mais il exclut la possibilité de gouverner avec le Rassemblement National et la France Insoumise à cause d'idées qu'il juge non compatibles avec la République.
Merci Arthur Delaborde, envoyé spécial d'Europe 1 à Elmao au G7 en Allemagne. La préoccupation des Français, c'est bien sûr le pouvoir d'achat, les prix de l'essence ne cessent d'augmenter, vous l'avez constaté si vous roulez en voiture, des prix qui inquiètent les acteurs de l'énergie en France eux-mêmes, d'où cette tribune dans le JDD de la directrice générale d'Engie, Catherine McGregor, du PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, et du patron de Total, Patrick Pouyanné. Tous demandent aux Français de moins consommer. La meilleure énergie reste celle que nous ne consommons pas, disent-ils de concert. D'accord, mais est-ce faisable ? Mathieu Limongi a posé la question à l'économiste spécialiste de l'énergie Thomas Porcher. Pour lui, vous allez l'entendre, la marge de manœuvre est assez faible.
On ne peut pas demander toute l'adaptation aux consommateurs. Je pense que les Français ont déjà fait un certain nombre d'économies. Naturellement, leur but, c'est de baisser la facture. Donc là, leur demander une économie supplémentaire, je trouve ça compliqué. Il y a la structure de l'économie telle qu'elle fonctionne, qui est très consommatrice d'énergie dans le monde. Et après, il y a les économies qu'on peut faire, nous, dans la vie de tous les jours. Et là, c'est très inégal en fonction de la situation des gens, où est-ce qu'ils habitent, et en fonction de l'équipement qu'ils ont chez eux. Ceux qui ont les chauffages les plus modernes peuvent les régler au degré près. Ceux qui ont les vieux chauffages, c'est beaucoup plus difficile. Ceux qui vivent à Paris peuvent choisir de prendre les transports en commun, ils ont plein de transports en commun. Ceux qui vivent en Meurthe-et-Moselle, c'est plus difficile. Et ainsi de suite. Et pour les vacances, c'est pareil. Ça dépendra du prix des billets, mais la marge de manœuvre, en tous les cas, de la plupart des gens, est extrêmement faible. Il y a quand même une base incompressible à un moment de consommation, même si on fait attention.
L'économiste spécialiste de l'énergie Thomas Porcher avec Mathieu Limongi. Un nouveau rassemblement à Paris cet après-midi en soutien à toutes les femmes américaines suite à la décision de la Cour suprême de révoquer le droit à l'avortement au niveau fédéral, de le renvoyer aux États fédérés. Rassemblement aussi pour inscrire dans la Constitution le respect à l'IVG comme le souhaitent la majorité et la NUP. Pendant ce temps, l'antisémitisme en France est toujours un fléau. Selon un sondage du début de l'année, 20% des juifs de France disent avoir été agressés physiquement parce qu'ils étaient juifs. Aujourd'hui, le CRIF a élu son nouveau président, Yonatan Arfi, succède à Francis Khalifa. Et pour lui, le premier chantier est justement de mettre fin à cette peur.
Notre souhait, c'est au fond de redonner de la sérénité aux juifs de France, de faire qu'aucun juif de France n'ait à avoir peur parce qu'il est juif dans son environnement, et de faire surtout qu'il trouve dans le regard et la démarche de ses concitoyens l'empathie à laquelle il a droit. Voilà un peu moi le sens de mon engagement, c'est de s'assurer que nous ayons une tolérance zéro contre l'antisémitisme, avec peut-être la volonté d'impliquer la société française. Nous avons besoin d'aller chercher des alliances horizontales dans la société civile. Je pense au monde associatif, au monde culturel, au monde de l'éducation, au monde du sport. J'ai le sentiment que beaucoup de Français ont parfaitement conscience que ce qui menace les Juifs de France, au fond, menace la République et la démocratie tout entière.
Yonatan Arfi, nouveau président du CRIF, le Conseil de représentation des institutions juives de France, avec Zoé Pallier. Vous restez avec nous, 18h12. Dans un instant, la suite du journal et ses inquiétudes quant aux fameuses piqûres dans les festivals. Piqûres toujours inexpliquées. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, informez-vous avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
On vous en parle depuis quelques mois et le phénomène est toujours aussi inquiétant. Les piqûres à la nuit tombée, des seringues plantées dans les bras, dans les boîtes de nuit, dans les festivals, sans que personne ne sache d'où elles viennent, qui les fait et surtout pourquoi. Jusqu'à ce soir, le Hellfest, le festival de hard metal, se tient à Clisson, en Loire-Atlantique. 40 000 fans rassemblés avec des festivaliers inquiets mais modérément. Charles Guyard les a rencontrés. Il y a des parents aussi. Reportage.
Sur les trois cas qu'on a eus ici, on a deux où on voit une toute petite trace, très légère.
Les cas évoqués par Frédéric Guéné, le chef du dispositif de secours de la SNSM déployé au Hellfest, ce sont des piqûres ou suspicions de piqûres sauvages que trois festivaliers, un homme et deux femmes, disent avoir subies sur le site.
Ils se rappellent simplement avoir été piqués alors qu'ils se trouvaient au niveau de la foule. Ah, ils ont eu des vertiges, mais comme là on a eu quand même pas mal aussi de coups de chaleur, il y a le stress aussi.
C'est surtout cela au fond, le stress qu'engendre ce phénomène dans les grands rassemblements. Au Hellfest, aucune agression sexuelle n'a en tout cas été recensée suite à une piqûre. Néanmoins, les secours ont été formés à détecter toute trace suspecte lors d'un examen et les agents de sécurité mis en alerte. David Lenagard de la société All Access.
Nous avons mis un process en route. Donc évidemment, à la palpation, si on trouve quelque chose, bah là, on arrêterait la personne et on la remettrait aux autorités. Ça fait un peu bête et méchant, mais c'est un phénomène nouveau, donc process nouveau, mais surtout pas tomber dans une psychose.
Au Hellfest, en tout cas, c'est d'abord la canicule de la semaine dernière et la pluie de ce week-end qui mobilise le plus de forces vives. Clisson, Charles Guyard, Europe 1.
Le sport and the winner is, il y en a deux, une fille et un garçon, primés par la Fédération internationale de natation, l'américaine Katie Ledecky et Léon Marchand. 20 ans seulement, le Toulousain a remporté 3 médailles pour ses premiers mondiaux à Budapest. L'ancienne championne olympique de natation, Malia Metella, salue cette nouvelle génération de nageurs.
C'est plus qu'un exploit, c'est une façon d'avoir un état d'esprit que Léon a réussi à être sur le toit du monde. C'est une mentalité que Léon a su mettre en place et a super bien géré pour devenir athlète masculin de ces championnats du monde. C'est les bases de ce renouvellement et je suis super contente et super fière. Et c'est vrai que c'est un premier pas de cette nouvelle génération. C'est super. Ça nous fait plaisir de voir ça et d'entendre de la part des gens qui regardent la natation et se dire « Waouh, vous nous avez fait encore rêver et vous nous refaites rêver. » Pour nous, c'est formidable.
Malia Metella et son hommage à Léon Marchand, recueilli par Ilona Langlois. Et puis, à une semaine du départ du Tour de France, Florian Sénéchal remporte à Cholet le titre de champion de France de cyclisme 2022. On termine par le ciel, Valérie Darmon, et encore 8 départements en vigilance orange aux orages.
Effectivement, Pierre, le ciel qui évolue assez peu, il va rester perturbé dans les heures à venir. Et demain, la Franche-Comté, l'Alsace ainsi que les départements de l'Ain et des Vosges sont donc placés en vigilance orange-orage pour ce soir. Les orages qui sont en train de se renforcer en abordant l'Ain et le sud de la Franche-Comté avant de remonter progressivement sur les Vosges et l'Alsace avant de s'évacuer enfin par le nord en milieu de nuit. Les averses qui vont persister de leur côté jusqu'à demain matin. Ces orages qui peuvent s'accompagner de phénomènes violents comme des chutes de grêle avec des grêlons de taille moyenne, des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 90 km/h. Donc dans la journée de demain, des Pyrénées à la Lorraine en passant par la région Rhône-Alpes, il continuera de faire mauvais toute la journée. À l'arrière, de l'Aquitaine aux Hauts-de-France jusqu'à la Bretagne, le ciel sera plus variable, un petit peu comme aujourd'hui, alternant passages nuageux et éclaircies, et il pleuviotera sur la Bretagne et le Cotentin. Et les températures dans ce contexte ne remontent pas encore, en tout cas pour le nord.
Merci Valérie Darmon, prochain journal à 19h. À suivre l'interview politique, 89 députés RN à l'Assemblée nationale, dont Philippe Ballard dans l'Oise, déjà dans les starting blocks. À tout de suite.